Alors, Bidrat Hashem, on va commencer un shiur de préparation au Seder. Et donc, la première question qui se pose, c'est de savoir pourquoi on a besoin particulièrement de se préparer au Seder. Donc, dans le livre de Rav Schlesinger, de Mansi, donc dans Sharel et la Seder, il a un petit passage là-dessus. Et il rapporte un enseignement du Khatam Sofer. Bon, c'est un descendant du Khatam Sofer, donc c'est pas étonnant. Et il parle de Inyan de Shabbat. Il y a marqué dans Shemot, dans Parashat Vayakel, Loteva Ruesh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat. Ne faites pas brûler de feu dans toutes vos maisons le jour du Shabbat. Et là-bas, qu'est-ce qui est expliqué? On parle en fait du Inyan, on sait que le feu, c'est le feu de la passion, la Itlahavut, etc. Et on apprend de là-bas, d'après le Khatam Sofer, que si on veut arriver à un certain niveau de spiritualité pendant le Shabbat, on ne peut pas, une fois que le Shabbat est déjà là, commencer, entre guillemets, à essayer de créer cette ambiance, à créer cette disposition d'esprit, de sentiments, etc. Et donc, Lotevaru Esh Bemchol Moshvotechem Yom HaShabbat dit que, en fait, comme on ne peut pas allumer ce feu pendant le Shabbat, il faut allumer ce feu avant le Shabbat. Et donc, on voit de là que lorsqu'on veut arriver à un niveau de Itlahavut, d'élévation, etc., c'est quelque chose qui se prépare à l'avance, et de la même manière pour le Seder. Il rapporte d'ailleurs quelque chose de très particulier, au nom des Tzadiké Emet, donc probablement au nom de Rebbe, il dit « Sheaya kedai kol galut mitzrayim kede sheizke adam lelel seder echad » que ça valait le coup de passer toute la galut d'Égypte rien que pour une soirée de Seder. C'est eux qui l'ont dit, hein. Moi je ne l'aurais pas forcément dit, mais... « Ou mishirotse lachush mikdush azo » Et donc celui qui veut... Pourquoi nous on ne l'aurait pas dit? Parce que probablement que nous on ne ressent pas la kdusha avec la même intensité. Mais il dit que celui qui ressent... celui qui veut ressentir cette intensité-là, alors il faut vraiment qu'il se prépare au Seder. Alors au début du Bnei Yisrael sur Chodesh Nissan, il y a une note très intéressante qui va nous faire rentrer un petit peu dans le sujet. Donc dans une note, il dit la chose suivante. Il dit Amar Hakadosh Morenu Arav Rabbi Pinchas Zecher Tzadik Livracha Lechayol Amaba Mikoretz. Donc Rabbi Pinchas de Koretz, un des grands maîtres de la Chassidut, a dit la chose suivante. Kol haKavanot shel Chag haPesach. Toutes les Kavanot de la fête de Pesach ou Bifrinat Malchut Kimvuar baKavanot. Donc sont sous la dimension de Malchut. Comme c'est expliqué dans le Shahar HaKavanot, dont ici en l'occurrence la référence est dans le Pirei Etzraïm au Shahar HaGamatzot. Or, même pour les gens qui sont ignorants totalement de Kabbalah comme nous, si on a pris un peu dans des synagogues de Sfaradim, on a l'habitude de commencer la tfila par Patach Elyon Avizachor Letov. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Malchut, c'est la bouche, c'est Pé. Pé, Malchut, il y a marqué là-bas. Vetorah Shebeal Pé, Karinan La. Et comme c'est marqué dans les Tikkuné Zohar, on l'appelle Torah chez Béalpé. Or, on a un principe selon lequel Dvarim chez Béalpé, Yatara Shail Omran Birtav, c'est une Gemara dans Gittin ou Davsamech Hamoud Bet, qu'il est interdit de mettre par écrit la Torah orale. Donc malheureusement, on a été obligé de mettre la Torah orale par écrit à cause de Et la Asot Lachem et Firuto Atecha, à cause de la Galout. On a été obligé d'agir finalement pour défendre la Torah, pour défendre l'intégrité de la Torah. Mais s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait jamais mis la Torah orale par écrite. Alors il dit « Velachen hu Pesach ». C'est pourquoi, donc c'est connu, on rapporte ça au nom du Arizal aussi, que la fête de Pesach, il faut couper le mot en deux. « Pesach », c'est la bouche qui parle. Fin de citation. Donc ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Pinchas de Koretz. Mais en fait, il dit « On ne voit pas où est l'allusion. On ne voit pas où est l'allusion à la Malchut. » Et l'allusion, elle est où? C'est que quand on dit Pesach, en fait, il y a un He qu'on a rajouté au milieu. Normalement, Pesach, c'est écrit Pesamechet. Mais si tu veux dire Pesach, c'est Pe-He, Samechet. Donc, tu as encore rajouté un He au milieu. Or, le He lui-même est la lettre qui remet à la Malchut. Puisque dans le Shem Hashem, Yud-Ke, Vav-Ke, on sait que le Yud, c'est la Chochma, le He, c'est la Bina, le Vav, c'est les Midot, et le He, c'est la Malchut. Vetorah shebe'al pe karinan la ulfize nir'e ikar ha mitzvah les saper béalpé. Il dit, c'est pour ça que le ikar de la mitzvah de Pessah, c'est le récit oral de la sortie d'Égypte. Qui viachol, que ce qui nous reste de Torah orale, entre guillemets, bon, bah, au Hachem, on étudie oralement aussi, on étudie, on parle, on discute, on raisonne, etc. Mais du point de vue institutionnel, entre guillemets, qu'est-ce qui nous reste comme Torah orale? C'est le Sipur, le récit de la sortie d'Égypte. Alors ça, véritablement, c'est Torah chez Béalpé Karinanla, et c'est pour ça qu'il y a ce He qui est au milieu, qui représente la Malchut. Mais Sipur Ma'alia Ba'inan, et il ne faut pas n'importe quel Sipur. On ne peut pas juste raconter. On prend un résumé, voilà, il s'est passé ça, ça et ça. En 2 minutes, c'est fini. Il dit non, il faut aussi pour Maralia. Il faut un récit d'une qualité particulière. Et il dit, à mon sens, c'est ça qu'on a voulu dire dans la Gemara quand on dit Vafilu kulanu chachamim, kulanu novenim, kulanu yodim et atora, mitzvah alenu lesaper bitziat mitzraim, lesaper. C'est vraiment de raconter, même s'il y a beaucoup d'agadotes écrites, il y a des commentaires, etc. On peut lire. Mais la mitzvah principale, c'est une mitzvah qui passe par la bouche. C'est la mitzvah de Pessah. Et donc on comprend que la raison pour laquelle ça passe par la bouche, c'est à cause de ce Pessah, à cause de ce He, qui est venu s'introduire entre les lettres du nom de la fête de Pessah. Alors le Maharal lui-même n'a pas écrit de commentaire sur la Haggadah. Il y a un commentaire qui est apparu. La première fois qu'on a édité un commentaire entre guillemets du Maharal de Prague, qui est en fait un faux. Donc il y avait un Talmid Chacham qui s'appelait Rav Yudel Rosenberg, qui était notamment Rav à Toronto, qui a écrit beaucoup d'œuvres, il a traduit tout le Zohar en hébreu, etc. Et c'était un grand faussaire. Et deux de ses œuvres principales, il y en a eu plein, hein, c'est pas le premier ni le dernier. Et parmi les deux œuvres très célèbres, donc, qui étaient des œuvres de faussaire, il y a un livre qui s'appelle Niflaot HaMaharal, qui est le livre où on raconte l'histoire du golem, etc. Et donc il y a un chercheur américain qui s'appelle Schneier Lyman, qui a démontré que c'était inspiré d'une histoire de Sherlock Holmes. Je pourrais vous passer l'article si vous voulez, c'est très, très intéressant. Il a publié ce livre qui s'appelle Haggadah de Pessah avec les commentaires du Maharal, etc. Donc il y a un faux également. Donc voilà, il y a toute une histoire sur le. Donc il y a un historique sur les commentaires de la Haggadah par
Est-ce
le Maharal.
Est-ce que c'est un faux avec l'esprit du Maharal ou pas?
Je sais pas. Tu peux le regarder, je pense, sur Hebrew Books, ça doit être disponible. J'ai pas eu la curiosité de. Ça serait intéressant
vrai.
À regarder.
C'est un faux vrai.
Non, mais apparemment, les rabbanim de l'époque.
De
faire de l'argent. Il a dit que c'était quelque chose qui était imprimé après d'être un manuscrit unique au monde, qui avait été retrouvé à Metz, etc. Bon, enfin.
C'est pas de
l'argent. Non, c'est pas. Non, c'est des gens qui savent faire de l'argent. Voilà, donc en général, les vrais agadotes du Maharal qu'on a aujourd'hui, c'est des agadotes où on est allé chercher ce que dit le Maharal sur les passages sur la Haggadah. Et vous savez, on cite beaucoup dans le Shiur mardi soir un livre qui s'appelle Gvurot Hashem. Donc Gvurot Hashem, les hauts faits de l'éternel, c'était traduit en français d'ailleurs, il y a très longtemps déjà. J'ai jamais vu la traduction, je ne me porte pas garant, mais voilà, ça a été traduit en français. Et Gvurot Hashem, c'est un énorme livre, donc il parle notamment du Sipur de Yetziat Mitzrayim, et il y a je sais pas combien de chapitres, c'est un vraiment le plus gros livre, je crois, à part le Netivot Olam, c'est un des plus gros livres du Maharal. Donc la plupart des livres qu'on a du Maharal sur la Haggadah sont généralement des passages du Gvurot Hashem, parce qu'après il y a des digressions aussi par d'autres sujets là-bas, mais sur ce sujet-là. Donc là, ce que je vous ai imprimé, c'est issu d'une anthologie de textes du Maharal, qui a été édité il y a des années, bon, c'était réédité récemment, c'est réédité régulièrement, M. Rav Kook. Et donc, il a rassemblé un certain nombre de passages. Le début, je ne sais pas pourquoi il est écrit ici du Sefer Netzach Israël, mais c'est possible que aussi peut-être dans le Netzach Israël aussi, il a récupéré des Inyanim, mais en général, c'est plutôt dans Gvurot Hashem. Bon, peu importe. Alors ici, l'introduction, il part d'un pasouk. Miemalel Gvurot Hashem, qui racontera Gvurot Hashem, les hauts faits de Dieu, Yashmi Akol Tahilato fera entendre mot à mot toute sa louange. Elle dit Retsono Lomar, Kisipur Shifrosh Alakadosh Baoru, Yefshar Mishnepanim. En vérité, ce pasouk vient nous dire que quand on veut faire la louange de Dieu, on est affronté à deux problèmes. Imitzad ha'echout, si je viens parler de la qualité des louanges que je vais faire, chez Yefchar la'amod ha'echout gvurot ma'asav, c'est impossible de pouvoir décrire en qualité la grandeur des faits de Dieu. Vega mitzad ha'kamut yefchar, et dans la quantité aussi, dans la grandeur physique, dans la quantité, c'est aussi difficile. Donc on a le passage dans la Gada où on cherche à savoir combien de prodiges ont été faits sur la mer, sur la terre, etc. Il y a différents modes de calcul, etc. L'une des explications de cette machloket, c'est qu'en fait, chacun des Talmidei Chachamim essaye de concevoir, de
valoriser.
Voilà, de donner une mesure à la grandeur des actes de Dieu, mais en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, ce passou qui a deux parties, donc, première mystiche, Miemel Gvorot Hashem, deuxième mystiche, Yashmi Akol Tehilato, donc chacune des deux parties répond à une question, ou pose la question plutôt. Miemel Gvorot Hashem, qui peut raconter la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi? Sharatson Bazé, Miyuchal et Daber Agvurav et la Redet Atachrit. Qui peut raconter la gloire de Dieu et aller jusqu'à la compréhension de la finalité de la chose? Ulfichar Amar Lachon Milel. Il dit, c'est pour ça que le pasouk utilise le terme de Milel, qui apparemment se réfère à un chidouche. Comme on voit dans le pasouk sur Avraham, Mi Milel et Avraham et Nika Banim Sarah. Comment on aurait pu imaginer que Milel, c'est du mot Mila, c'est dire évidemment, hein, Mi Milel et Avraham et Nika Banim Sarah. On parle du fait que Sarah Imenu, qui était très âgée, va pouvoir allaiter des enfants. Donc qui aurait pu dire une chose pareille? Donc on voit que Miyemalel Gvorot Hashem, c'est un lachon de chidouche, c'est quelque chose d'extraordinaire, de nouveau, qu'on n'avait pas envisagé jusqu'à maintenant. Et par rapport à la multiplicité des miracles qui ont été faits, Yashmi Akol Tehilato, qui pourra faire entendre Kol Tehilato, toute sa louange dans son intégrité. Donc ce pasouk finalement est un questionnement, qui est le questionnement de celui qui veut louer à Kadosh Baruch Hu. Tu veux louer, mais comment tu vas faire?
On le fait déjà quand on fait Hachem Hachel, Kachachum, Kachachum,
ouais.
On donne certains attributs, on ne donne pas tout, mais...
Alors c'est la Gemara que le Maharal va citer. Il y a aussi la phrase célèbre de Woody Allen, n'est-ce pas? Qui dit Dieu soit loué, oui, mais combien? Alors, ou Perek En Omdin. Alors, il dit dans le Perek En Omdin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Brachot? Haoud enachit kamed Rabbi Hanina Amar. Donc, il y a quelqu'un qui est passé devant la Teva en présence de Rabbi Hanina et il a dit Ha'el, Agador, Agibor, Ve'anora, Ha'adir, Ve'amitz, Ve'izuz, Ve'amiti, Ve'yaroui, Ve'choule.
Je ne l'avais pas lu. Hein.
Voilà.
Mais c'était...
Donc il a commencé à faire un catalogue de Shvachim sur Akadosh Baruch Hu.
On s'est dit que c'est très important, parce qu'on avait perdu tout et on a retrouvé après. Donc on voit bien que c'est bien les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Puisque ça avait perdu tout et on a retrouvé.
Alors visiblement, ça ne lui a pas plu à Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il lui a dit? À Marley, si Amtin hu lechule hu shifre de marach, il dit c'est bon, t'as fini là, t'as, la liste elle est complète. Allez, dit Hashta Haneush Losha. Il a de Amrin ou Moshe Beoraita, Venchek Neset Agedola, Takinu Bitfila, Loave Amrinan Leu. Il dit même Ha'el Hagadol Hagibor Vanora, d'accord? Donc ça fait trois attributs.
Plus.
Hein?
Ha'el Elian.
Hashem Hashem.
Non, Ha'el Hagadol Hagibor Vanora.
T'as pas fait le début de Hashem Hashem aussi?
Non, mais c'est pas ça. C'est pas... Quand on fait la Tfila, on est dans la Mida.
Mais je pense déjà aussi.
D'accord? Dans la Mida, il y en a trois. Il dit déjà ces trois attributs de Dieu qu'on a dans la Amida, s'ils n'avaient pas été institués par les Anshe Knesset HaGedola, et s'ils n'avaient pas déjà été dits dans la Torah par Moshe Rabbeinu, on ne se serait pas permis de les dire. Ou Mipnezei Yesh Lishol, il dit pour ça il faut se poser la question. Ech Hanu Metsuvim Lesaper Nifleotav Shel HaKadosh Baruch Hu Belel HaYetzia. Donc finalement, le Maharal vient avec une question extraordinaire. Il dit ok, vous nous donnez une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, mais on sait que c'est impossible de raconter la gloire d'Hachem. C'est impossible de retracer la grandeur de ces miracles. Donc comment à la fois tu peux dire à l'homme soit Marbel et Saperbe et Tsiad Mitzraïm, rajoute-en, mais étends-toi, développe, fais ça toute la nuit, etc. Alors qu'on voit que même pour dire trois adjectifs, Rabbi Hanina, il a dit non, si Moshe Rabbeinu les avait pas dit dans la Torah, et si Anshei Knesset HaGedola les avait pas institués dans la Tfila, jamais on se serait permis de choisir lesquels, quel attribut il faut dire de Dieu. Pourquoi on ne dit pas la même chose pour le CDR? On ne peut pas raconter. Finalement, comme disait, non, je vais passer de Woody Allen à Wittgenstein. Hein, qu'est-ce qu'il a dit Wittgenstein? Ce qu'on ne peut dire, il faut le taire. C'est-à-dire, si tu ne peux pas dire la grandeur de Dieu, ferme ta bouche, je n'ai rien à dire. Donc pourquoi, finalement, comment ça se fait qu'on ait cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte? Elle a dit « Aval tirutz akushia zot ». C'est quoi le tirutz de l'akushia? C'est quoi la réponse? « Kesheba les saper shifro shel makom » Lorsque on s'apprête à raconter la gloire de Dieu, à faire la louange de Dieu, « Bevadai baze shayach lomar mi emalel gvurot Hashem » Là-dessus, c'est sûr qu'il y a cette interrogation. Comment on pourra arriver jusqu'au bout? « Aval » Il sort un shoresh qui est très important. Il dit qu'en fait, lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte, c'est pas pour faire la louange de Dieu, ça n'a rien à voir. Si c'était pour faire la louange de Dieu, alors soit on nous aurait dit tais-toi parce que tu peux pas y arriver, soit on nous aurait dit voilà, tu dois dire trois choses, ou tu dois dire quatre choses, ou cinq choses, ou sept choses, peu importe. On t'aurait donné la formule exacte, et au-delà de la formule, on n'a pas le droit d'en rajouter, et en deçà de la formule, on n'a pas le droit de retirer. Donc on voit de là, du fait qu'il y a cette mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, on voit de là qu'en vérité, on n'est pas dans le domaine de la louange, on n'est pas dans le shvar. Rak she'anu mesaprim shifro shelo niye kfuye tova. La raison pour laquelle on fait sa louange, c'est pas pour faire de la description, c'est pour ne pas être ingrat. C'est-à-dire que si tu dis, ok, je peux pas raconter la louange de Dieu, mais d'un autre côté, il t'a fait sortir d'Égypte avec des prodiges exceptionnels. Il t'a fait des miracles, etc. Donc, on ne peut pas s'arrêter juste à cette pensée de dire « Je voudrais faire la louange d'Akadosh Baruch Hu, mais je ne peux pas parce que je risque de tomber dans un travers qu'on vient de voir. » Non. Il dit « Si on fait, si on se tait, on est kfouye tova, donc on est coincé. On ne peut pas faire preuve d'ingratitude.
Oh, » mais on fait le halal, donc cette ingratitude, elle est... Elle n'est pas
alors, c'est une bonne norme, c'est bien ce que tu dis. Dire. Ouais. Peut-être on aurait dû faire juste le halal.
C'est pour ça que je te dis.
Mais pas le sipour.
Non, mais pourquoi tu dis une d'accord.
Parce que le halal, c'est une fila. Enfin, c'est un truc. C'est un texte institutionnel, entre guillemets.
Mais là aussi, c'est un texte institutionnel que tu me donnes.
Qu'est-ce qui est institutionnel?
Tous les. Non, pas dans la mina, je te parle de tous les qualificatifs que tu viens de donner là pour Akadosh Baroukou.
Agadol Agibor Vanoa. Oui, donc ça, c'est pour ça qu'on a le droit de le dire, parce que c'est institutionnel. Donc on aurait pu dire la même chose. On aurait pu dire, ok, on fait le Hallel. En faisant le Hallel, j'ai fait le Shevar de Dieu, entre guillemets, packagé, formaté, etc. Il y a un nombre de psukim donné, il y a des mots qui ont déjà été calibrés. David Ameler, il a prononcé ça, Biroch HaKodesh. On est tranquille. Mais on n'a pas que ça le soir du Seder. On a tout le Sipour. Alors tu vas me dire, oui, mais le texte de l'Agada. Ok, il y a un texte de l'Agada, même si le texte de l'Agada, il est plus tardif quand même. Mais le texte de la Haggadah, on ne s'arrête pas là, puisqu'on est que la marbée, on doit en rajouter.
Mais c'est ce qu'on fait, on rajoute.
Voilà, et donc on a un problème.
Mais non, puisqu'on a fait, on a fait ce qui nous est demandé. Après, le fait d'avoir ajouté...
Mais non, mais c'est la même chose que dans la Gemara. Dans la Gemara, il a dit quoi, le type? Il a dit « Ah, la Gador, la Gibor, Anora ». Il était bon, il a rajouté « Hadir, Am ». Donc il lui a dit « Stop, tu fais quoi, là ?» C'est ça, l'Union.
Je vois pas en quoi ça peut être... C'est pas restrictif, quoi, c'est ça que je veux te dire.
Parce que le fait d'avoir un chevar qui est extrêmement long représente une prétention à être exhaustif. Soit tu comptes pas être exhaustif, donc tu fais un résumé. Si tu commences à t'étendre, ça a pas de sens de s'étendre pour s'arrêter au milieu. Soit tu racontes toute l'histoire, soit tu racontes pas l'histoire, soit tu racontes un résumé de l'histoire. Donc soit je raconte le résumé de l'histoire, soit je raconte toute l'histoire. Mais me dire, je vais raconter la moitié de l'histoire, je vais m'arrêter au milieu, ça n'a pas de sens. Donc si ce que je raconte, je le raconte, c'est que je suis arrivé au bout. Et le bout auquel je suis arrivé, en vérité, il n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de fin au shevar de Dieu. Donc on ne peut pas se mettre dans une situation où on ne remercie pas Dieu pour les nissim et niflaot qu'il nous a fait. « Vechi enanu mechuyavim lesaper ma she'etiv imanu » Le Maharal nous dit, est-ce qu'on n'a pas l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait? Bien qu'on ait l'impossibilité de raconter tout ce qu'il nous a fait de bien. Ne serait-ce que parfois, ce qu'il nous a fait de bien, on n'en est pas conscient. C'est pareil pour notre propre vie. C'est que Pessah, c'est la Géoula nationale, mais il y a aussi la Géoula personnelle. Donc, les Nissim qui sont au niveau national, des Nissim personnels aussi. Et souvent, on n'est même pas conscient de ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Ve'af miktsat nifleotav. On peut même pas raconter une partie de ce qu'il nous a fait. Mikol makom bishvil ze en lomar shelo lesaper miktsat mehen. Ve'afilu bishvil miktsat uvo she'asa imanu yesh lanu leodot lo. Donc il va dire que finalement, ce qui nous contraint, c'est une contrainte morale. En vérité, c'est marrant dans ce texte-là, parce qu'à la base, on parle d'un problème théologique, on parle d'un problème philosophique. C'est-à-dire, il est impossible d'être exhaustif dans la louange de Dieu, parce que Dieu est infini, ses bontés sont infinies, etc. Donc on parle d'un problème théologique, un problème de philosophe, de théologien. Et on finit avec une réponse de moraliste, de dire, nous on n'est pas des kfouye tova. Un juif, c'est pas un kfouye tova. Quand il reçoit quelque chose de bien, il remercie. Il remercie la Karatatov. On a entendu souvent de Rav Guggenheim, qui est toujours au nom de son maître, Rav Goldwirt, que toute la base du moussard, c'est la Karatatov. Et donc on ne peut pas passer sur ta Karatatov. Donc on préfère, entre guillemets, faire l'économie de notre conformité à une théologie qui soit parfaite, d'accord ? Qui soit parfaite, dire qu'on s'engage pas dans quelque chose qu'on peut pas au bout duquel on peut pas aller. Donc on préfère laisser ça de côté pour embrasser autre chose qui est la gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça c'est important à savoir, dire que tout le inyan de Sipur Yetziat Mitzrayim, c'est vraiment de se mettre dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on dit que chacun chayav adam lirot et atzmo ou leharot et atzmo en fonction des girsaot, kelu yatsa mi mitzrayim. Dire il faut vraiment, il y a un ressenti qui doit être un ressenti, il doit avoir un vécu. C'est pas une célébration, une commémoration, etc., etc. C'est véritablement véritablement revivre, parce que revivre c'est le meilleur moyen de pouvoir ressentir le bien que Akadosh Baruch Hu nous a fait. Alors voilà, ça c'était pour un peu introduire le sujet.
Pour pouvoir le revivre, il faut falloir vivre ce qu'eux ils ont vécu, ce qu'on n'a pas vécu.
Ah, c'est qu'il y en a qui prennent le baluchon et le bâton. Non mais c'est-à-dire que bon, on a commencé par le Bnei Sassra. Bon, ça c'est une idée qu'on trouve dans beaucoup de Sfarim, de Chassidut notamment, que c'est dans le Halanissim, il y a marqué Bayami Mahem Bazmanazé. Donc c'est pas valable que pour les fêtes des Rabbanan, c'est évidemment valable pour les fêtes de Raita également, que les fêtes juives ne sont pas des fêtes de commémoration, c'est des fêtes qui permettent de revivre les événements. C'est pour ça qu'on se met en situation. Que voilà, on va à Shavuot, on va lire le texte de Matan Torah, à Pessah on raconte, etc. Donc dire qu'à travers le récit, à travers la parole, à travers l'étude, à travers même le comportement qu'on peut avoir, on va s'accouder, etc., etc. Donc on se met dans une situation physique, psychologique, particulière, qui nous permet de percevoir quelle était peut-être la situation dans laquelle se trouvaient nos ancêtres.
Aussi, il y a un avantage à ça, c'est que n'importe qui, quel que soit son niveau de connaissance, il peut vivre la sortie du
jeu. Oui, c'est pas quelque chose de purement intellectuel. C'est quelque chose qui est plus spirituel qu'intellectuel. Ça se situe au niveau du ressenti, du regesh, évidemment aussi du cercle, mais le regesh a eu d'importance, puisque, notamment lors de la fête de Pessah, on a des mitzvot qui sont des mitzvot de achila. On sait qu'aujourd'hui, la achilat matzah, c'est la seule mitzvah de Horaïta de manger qui nous reste. De toutes les mitzvot de la Torah, il y a plein de mitzvot de manger, des korbanot, de ceci, de cela, la terouma, le maaser, enfin pour ceux qui sont habilités à manger la terouma et le maaser, etc., etc. Le maaser sheni, hein, pour ceux qui, hein, pour les autres. Et donc la seule mitzvah de Horaïta qui nous reste aujourd'hui, c'est la achilat matzah. Le premier soir du seder. Donc c'est quelque chose de particulier. C'est une mitzvah donc qui passe par un acte matériel de manger.
De base.
A priori, de base.
La seule mitzvah d'Oraïta. Et le Corban
Pessah, c'est la seule Achila d'Oraïta qui nous reste. Ouais, mais ça va ensemble, c'est le tout, c'est la Xera Shava, tout, les deux vont ensemble. Voilà. Alors on va continuer un petit peu sur le. Bon, je pensais sauter, mais on va avancer un petit peu. Donc l'un des premiers textes de la Haggadah, le Halachmaania. Halachmaania. Donc on désigne la matzah, on dit Halachmaania. Ceci est le pain de misère. Chacun se souvient en fonction des agadotes traduites qu'il avait sous la main quand il était jeune. Yesh lishol la manikra amatsa lechemoni. Donc ça, c'est une question qu'on se pose tous les ans quand on va au supermarché. Pourquoi on appelle la matza lechemoni? Pourquoi la matza s'appelle pain de misère? Selon certains, c'est parce qu'après l'avoir acheté, on se retrouve miséreux. Et visiblement, la question existait déjà à l'époque du Maharal. Donc il dit, pourquoi ce pain, on l'appelle lechemoni? Il dit varef char shina'a ki matza shlema. Si on a une belle matza qui est entière, qui est bien grillée, etc. Pourquoi ça serait un lechemoni? Alors c'est vrai que nous on va casser la matza et qu'ensuite on va faire la achilat matza sur la proussa, sur la matza qui est cassée, parce que de la même manière que ma'ani b'proussa a fait, etc. Que le ani en général il a pas les moyens d'avoir un pain entier, il a un morceau de pain. Donc nous si on va avoir un morceau de matza. Donc il y a ce inyan-là. Mais cela dit, on appelle la matzah en général l'echemoni. Là, en tout cas, à l'achmaania, on n'a rien cassé encore. Les matzahs, elles sont entières. Ve'al-shem ma'nikret ha-matzah l'echemoni. Donc le Maharal pose une question. Il demande pourquoi appelle-t-on la matzah l'echemoni? Question basique. D'accord? Classique et basique. Mais c'est les meilleurs. Omnam pirush adavar. Alors comment on explique ça? Ki ha-matzah nikret l'echemoni hefer matzah ashira. C'est-à-dire qu'il n'oppose pas la matza au pain, il oppose la matza mitzvah, c'est-à-dire la matza shmura, avec de l'eau et de la farine, sans rien d'autre, il l'oppose à la matza ashira.
Le jus d'orange, le vin.
Chez Kacher, yesh bashemen ou dvash, nikrat ashira. On sait que qu'est-ce que la matza ashira? C'est une matza qui a été pétrie avec de l'huile, avec du miel, avec du jus de raisin, avec du jus d'orange, avec ce que vous voulez. Qui a davar azem ashira lechem, c'est ça qui enrichit entre guillemets le pain. Donc ça c'est une matzah ashira. Donc visiblement la première distinction, c'est que on appelle notre pain qu'on a à table le soir du seder lechem oni parce que c'est pas une matzah ashira. Pourquoi c'est pas une matzah ashira? Parce qu'on ne peut se rendre quitte de la mitzvah qu'avec une matzah qui aurait pu fermenter et qui n'a pas fermenté. Alors comme on sait que les mépérotes et namachmetsim, que normalement les mépérotes ne peuvent pas faire fermenter la farine. Donc, cette matzah-là, on ne peut pas faire la mitzvah avec. Veze ki ani eno ela atzmo vegufo. C'est quoi un pauvre? C'est quelqu'un qui n'a que lui-même. Il a son corps, c'est tout ce qu'il a. Comme on voit dans le Mishpatim, im begapo yavo, begapo yetzi. Il est venu avec son vêtement, il sort son vêtement, il n'y a rien d'autre. Il n'a pas de possession, il n'a rien. Il a son corps et lui-même. והמצה גם כן כאשר אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה היא המים והכמח, ובזה היא לחמוני. C'est pour ça qu'on appelle la matza lechemoni, parce qu'il n'y a rien dans la matza. Il y a de la farine et de l'eau. Il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de levure. Il n'y a pas d'adjuvant. Il n'y a pas d'épices. Il n'y a rien. C'est la chose la plus simple qu'on puisse imaginer. Donc ça nous fait penser au pauvre, qui lui-même est démuni de tout. Il dit peut-être ça, tu vas te poser la question. Ma inyan aniyut el acherut. On pose rarement cette question. Quel est le rapport entre la pauvreté et la liberté? Parce que finalement, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on célèbre? Tout c'est derer cherut. Alors, on parlait de la machloket, on peut faire le jus de raisin, etc. Certains disent on ne peut pas prendre le jus de raisin parce que ce n'est pas derer cherut. Derer cherut, c'est un alcool. Donc il faut que ce soit du vin. D'accord, bon, c'est pas là. Évidemment, c'est seulement un avis. Mais donc, on voit qu'on mange à coudé, derer cherut. Tout est derer cherut. Le balabait se lave pas les mains. On vient lui laver les mains. Derer cherut. Alors, derer cherut, mange de la brioche. Mange un pain grillé. Mange un pain aux céréales, quelque chose de riche. Un pain avec du miel, avec des noix, des avec des raisins secs, je sais pas, un truc... Mais choubad, quoi. Donc, quel rapport ici? On veut célébrer la liberté et on te fait manger une simple galette. Va alosh ne'afachimem, acherut va'aniout. La liberté et la pauvreté, c'est l'inverse, c'est l'opposé l'un de l'autre. Le pauvre, il est soumis. Il est soumis à sa condition. Il doit aller chercher l'argent, il doit aller travailler. N'importe qui donne du travail, il va l'accepter. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas voyager, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas s'acheter quoi que ce soit, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas nourrir sa famille, il n'a pas d'argent. Il ne peut rien faire. C'est ça la liberté. Alors le Mara nous dit, « Halo davarze en kasha » Il dit, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de contradiction. « Ki aniyut be'atzma hora'a ala geula » Car la pauvreté en elle-même, motamo nous indique, nous fait allusion à la geula, à la délivrance. She'en inyan ageula rak shiyotse ve'en lo shum tsiruf el zulato. C'est quoi la geula? C'est de sortir et de n'être lié à rien d'autre. On est associé avec rien d'autre. Lokmo eved she'en omed be'atzmo ve'yesh lo tsiruf el zulato ou adon. C'est quoi le problème de l'esclave? C'est qu'il est soumis au maître. Tout ce qu'il fait, c'est sous l'autorité du maître. Alors que celui qui est libre, c'est celui qui n'est sous l'autorité de personne. Les kach adavar shiyeshbo ashirut eno omed be'atzmo rak yeshlo tseruf el kinyano ve'en baze geula. C'est-à-dire que celui qui est dans la pauvreté, entre guillemets, ici on parle de la matzah, il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien à autrui. Il est libre au sens où personne ne s'occupe de lui. Personne ne s'intéresse à lui, personne ne s'occupe de lui, personne ne lui demande des comptes. Il est sur son banc. Tandis que celui qui a de la richesse, Omed batzmo rekshes lo steruf el kinyano ven baze geula. Il dit, bon, c'est très maralien, quoi. Il dit que celui qui est riche, il est englué dans ses biens, quoi. Il est accroché à ses biens. Lui, il pense qu'on pense que... Les gens disent, non, si j'ai de l'argent, je vais être libre, je peux faire ce que je veux. On ne voit pas la servitude des biens, la servitude de la matière. Vien basé geoula, il n'y a pas de geoula. Dans la hachirut, il n'y a pas de geoula. Aval hadavar shiyeshbo aniyut, ve'en lo kinyan, rakomet be'atzmo shiyeshbo geoula. Qui c'est qui peut être libéré? C'est celui, finalement, qui a coupé les ponts avec tout le reste. Il n'est lié par rien. Il n'est conditionné par rien. Ki ilu aita amatsa shi lechem oni moral bene adam shem bene chorin, aya lecha lishol. Il dit, si la matza, donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que nous indique la matza? La matza, elle nous indique la situation d'une personne qui va pouvoir se libérer. C'est pas le signe de la liberté elle-même, c'est le signe de la condition qui va me permettre de me libérer. Dire, si tu veux te libérer, lâche tout le reste, lâche. Dépossède-toi.
Il n'est pas libéré, lui, déjà.
Hein ?
Il n'est pas libéré.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est une situation pour être libéré.
Voilà, c'est la situation qui va lui permettre de se libérer. Ouais. On est tous esclaves.
On a vu avec le Maharal plusieurs reprises comme quoi l'attachement au matériel nous empêche de se rapprocher de la Kadosh Baruch.
Exactement.
Mais on a bien aussi cité que le fait d'avoir, parce que là tu as cité l'opposition entre le pauvre et le riche, quoi. Il y a un juste milieu entre les deux. Si je prends une situation classique, et afin d'accorder un temps pour Akadosh Baruch Hu, d'acheter des livres, d'acheter une éducation
très bien, acheter des livres, très bien.
D'acheter une éducation pour mes enfants, ou bien d'acheter de la nourriture cachère pour mes enfants, ainsi de suite. Donc, pour moi, les habits pour sa femme. Donc, on rentre dans toutes les règles que l'on doit en principe exécuter. Je ne vois pas en quoi le pauvre, il est meilleur
que... Bon, déjà ici, comme d'habitude, non, ce que tu dis est juste, mais ici on est au niveau de la symbolique, d'accord? Il n'est pas en train d'écrire le profil socio-économique du juif. Cela dit, le Maharal s'est attaqué très violemment à une forme d'embourgeoisement de la communauté juive à son époque, qui avait des conséquences spirituelles terribles. On l'a vu dans Netivat Torah, que finalement les parents ne cherchaient pas à enseigner forcément le Emet à leurs enfants, cherchaient à enseigner le pile-poule pour que les enfants puissent crâner comme quoi ils étaient instruits, mais le but n'était pas la connaissance de la Torah, le but n'était pas l'application de la halakha. On a vu, quand on a étudié le Ner Mitzvah, que les juifs de la communauté se permettaient de boire du vin des goyim parce que voilà, c'est le plaisir, etc. Et on sait que le Maharal s'est attaqué aussi à toute la, on va dire, la superstructure communautaire, les parnassim, les machins, les trucs, les présidents, les rabbins, etc. En leur disant, vous êtes des hypocrites, vous êtes des une sorte de collabos, quoi. C'est-à-dire, vous appliquez pas le émet, quoi. C'est pour ça que bon, il a eu un poste vraiment de responsabilité officielle que très très tard dans sa vie. Parce qu'à chaque fois qu'il prenait parole, c'était pour à chaque fois qu'il prenait la parole, c'était pour désinguer tout ce qu'il y avait autour. Donc ici vraiment, on est dans un, il y a malgré tout ça, c'est-à-dire que même si comme tu dis, on a besoin d'une assise matérielle pour pouvoir mener une vie de Torah, etc. Il faut toujours faire attention à garder en tête que c'est une assise matérielle pour avoir une vie de Torah. Mais ça ne doit pas devenir une vie bourgeoise au sens de... on va compter le nombre de voitures et on va compter le machin, etc.
Pas plutôt, je pense, le problème de possession. Parce que manger, comme il dit, tout ça, c'est, je dirais aujourd'hui, c'est le niveau général. Mais la possession, ça te lie à un endroit, etc. Donc tu ne peux pas être libre.
Marbé Mechassim, Marbé Neaga, c'est... Ça préoccupe aussi.
Se préoccuper, c'est l'état à vote. Je parle d'état à vote.
Oui, non, mais parce que lui il disait le quotidien, il disait.
Ici, c'est vrai qu'il a parlé de la. C'est vrai qu'ici, il a parlé des nechassim, il a parlé de la propriété.
Nechassim,
c'est contre les possessions.
Voilà, plutôt possession.
Donc, faire le tour de.
Oui, très peu, quoi. Voilà. Mais le fait de venir manger sa femme, le quotidien, j'irais, ce n'est pas des racines réellement.
Mais il faut comprendre que notre quotidien, à nous, en fait, nous, on vit comme vivaient les riches autrefois, quoi.
Oui, c'est ça. C'est hein? ça.
Je renvoie à nouveau à ce très beau livre qu'il faut lire, Factfulness. Je vous invite à lire ce livre. Kilu aita matza sheilechem oni mora al bnei adam shem bnei chorin aya lecha lishol. Si la matza, qui est le pain de misère, le pain de pauvreté, indiquait, désignait les hommes qui sont libres, il aurait fallu te poser une question. Quelle est la question? Valo en aniyut siman cherut klal. La question qu'on a posée au début. En quoi la pauvreté, c'est de la liberté? Aval lechem oni azé, baal etzem ayetzia lecherut. C'est-à-dire qu'en fait, en résumé, la matza qui est lechem oni ne désigne pas la situation de liberté, mais le passage de l'esclavage à la liberté. C'est la yetzia. Et d'ailleurs, bon, tout le sipour du CDR, c'est le sipour de yetziat Mitzrayim. D'accord?
Ça tient plus la route ça que celle de tout à l'heure, que justement la matzah, elle a pour symbole de la pauvreté à la liberté. Que plutôt l'inverse, parce que tout à l'heure, qui est le juif qui voudrait se mettre dans une condition pareille d'être libre, être pauvre comme ça?
Non, mais ça symbolise. C'est-à-dire que la symbolique de la matzah, c'est la symbolique du passage. Comme on a maintenant compris que le pauvre n'est pas libre non plus. Le riche, il est englué dans ses biens, etc. Donc il n'est pas libre. Mais le pauvre non plus, il n'est pas libre. Parce qu'il est entre guillemets dans le, il est tenu par ses problèmes, par ses contraintes. Donc qu'est-ce que nous présente, qu'est-ce qu'on retient comme idée du lechem oni? On retient l'idée de non dépendance. En tseruf lezulato. Il y a pas, j'ai rien de compte à rendre à personne. Et c'est que à travers ça que je peux sortir de ma galoute.
On le voit dans la vie de David Amelert, que tu es en train de citer, de façon permanente. On le considère, il se considère comme quelqu'un qui a tout perdu, qui est au fond des abîmes, et que c'est le seul moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas vrai.
Et c'est pour ça aussi que les tzadikim partaient en galoute aussi, c'est la même chose. C'est bon, c'est une capara, certes. Ouais, c'est une capara aussi, mais ouais. C'est aussi une manière de se couper de tout, quoi. Ve'etzem ha'yetzia lecherut, enakim be'istalek inyan ha'tziruf. Ça veut dire quoi, sortir vers la liberté? C'est se séparer du inyan atzeruf, de mot à mot l'association. C'est-à-dire qu'il faut que je coupe toute dépendance. Je traduirai ça en français moderne par une dépendance. Chez l'autre, il y a nimtza itztarfut klal. C'est-à-dire, je suis associé à rien du tout. Vechacher enkan itztarfut. Et lorsqu'il n'y a aucune association avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit, az nimtzat geula. C'est là où tu trouves ta geula. Ulfichar tiva lechol. C'est pourquoi on nous a ordonné de manger du pain de pauvreté, du pain de misère, chez Umatsa, qui est la Matsa, Belel Ayetia. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du passage de la Galoute à la Geoula, Et donc, comme toujours, ce qui est valable au niveau national est valable également au niveau individuel, ça doit passer par le fait de couper, le fait de se séparer d'un certain nombre de choses. Et comme on dit dans la tshuva, Yazov, Racha Darko. Qu'est-ce qu'il fait le Racha? Yazov, il laisse tomber, il se sépare de son ancienne, manière de vivre. Le Baal Tshuva, c'est ça qu'il fait. Parfois, les gens se plaignent, ils disent, voilà, le Baal Tshuva, il a coupé les ponts, il est plus social. Il... On a vu dans le Maharal que social, il ne faut pas trop. Il faut juste le Talmid Chacham, il doit être juste assez social pour que ce soit poli et que, voilà, qu'il n'y ait pas de problème, pas créer de problème. Mais il doit pas, il doit s'éloigner de la over-socialisation, quoi, d'être en permanence, d'être copain avec tout le monde, etc. Non, pas du tout. Donc, on va sur le Baal Tshuva, il sort de... Il coupe avec beaucoup de choses. Alors, ceux qui restent derrière peuvent considérer que c'est une insulte pour eux, ou un affront, ou une blessure narcissique, je sais pas comment ça s'appelle. Mais lui, en fait, il fait pas ça pour ça. Lui, il fait ça pour passer de sa galoute à sa geoula. Or, le seul moyen de passer de la galoute à la geoula, c'est de couper les amarres. Tant que t'es accroché par ta société, t'es accroché par tes liens de ceci, t'es accroché par tes biens de cela, etc., tu peux rien faire. T'es pris, en fait. Veot tedal, Maral continue, dit sache encore de quelle manière la matzah, qui est un pain de misère, se rapporte à la geoula. Donc il revient sur la première idée qu'il avait dite, à savoir que le hani, il est dans la simplicité la plus totale. Il n'a rien. Donc plus simple que ça, il n'y a pas. Bien que dans notre monde à nous, c'est considéré comme étant un chisaron. Nous vivons dans un monde qui est un monde de la complexité, de la composition, de l'association. Et donc celui qui n'a pas abondance de choses, il n'est pas mélangé, il n'est pas associé, etc., il n'est pas en accord avec le monde. Rencontrer chez quelqu'un, on voit sa maison, on dit hein, le pauvre, c'est quoi cette maison? Mais en fait, c'est de la pchitoute. C'est de la simplicité. C'est une personne qui est arrivée à un idéal de. Un idéal de pchitoute. Il a compris qu'il n'a pas besoin du superflu. Il faut avoir le nécessaire, mais pas plus que le nécessaire. Mikol makom, a pchitoute. Ma'alai mitzadola ma pashut shen bo arkava. Il dit par rapport au monde qui est le monde de la composition, le monde de la complexité. Alors c'est bien d'avoir des choses. Mais par contre, par rapport au monde qui est un monde sans arkava, sans mélange, dire un monde où les choses sont claires. Alors pour ce monde-là, c'est-à-dire le monde du Emet, ce qui a de la valeur, c'est la pchitoute, c'est la simplicité. Ou balayla azé hayu tzrichim el geula. De quoi on avait besoin le soir de Pessah? De la geula, d'être délivré. Donc ça, c'est une idée qu'on a répétée vraiment beaucoup de fois. Que tout le inyan de Pessah, c'est une ita'aruta d'il'ela. C'est un éveil d'en haut. C'est un éveil d'en haut. Ça veut dire que la geoula ne vient pas de ce monde-ci. Ce n'est pas une geoula du bas vers le haut. C'est une geoula du haut vers le bas. La geoula d'Égypte n'est pas en rapport, n'a aucun rapport avec le monde qui est un monde de composition d'éléments, etc. Rak mitzad olam aelion apashut. La geoula, elle est en rapport, elle vient d'où? Elle vient du monde céleste apashut, qui est simple. C'est quoi la simplicité? C'est l'unité de Dieu. C'est le plus simple qui puisse exister. Quand on dit Beretsono apashut, quand on veut parler de l'intensité la plus haute de la volonté divine, si tant est qu'on est capable de graduer l'intensité de la volonté divine, on dit Beretsono apashut. Ça veut dire la simple expression, au sens, l'expression intégrale, inaltérée, je ne sais pas comment, il n'y a pas de mot pour dire, de sa volonté. C'est la pashtut. D'où le fameux piyout qu'on lit à la fin de la Gada, Echad Miyodea. Parce qu'en fait, ce Echad, il est impossible à... il est impossible à atteindre.
C'est pas le 1 du chiffre, c'est le 1 du 1.
C'est Echad Elohenu. On répète la même chose.
Le fait que ce soit
on répète la même chose.
Du bas, c'est, on est passif ou on est actif?
On a dû faire des choses pour être actif, puisqu'il y a eu quand même le sang de la Mila, il y a eu le sang du Korban Pessah, etc. Mais la lumière spirituelle de Pessah, c'est une lumière qui était entièrement chesed. On avait besoin de faire quelque chose pour se raccrocher, mais c'est pas forcément par le... On avait besoin de dire qu'on n'était pas totalement déméritant. Donc on a dit, ok, on va donner des mitzvot, on a donné deux mitzvot, Bedama Yechai, Bedama Yechai, le dame Mila et le dame du Korban Pessah. Mais c'est vrai que parfois on dit c'est par le mérite de ces mitzvot qu'on est sorti.
Ah oui.
Mais c'est pas au sens où la rétribution de ces mitzvot c'était la sortie d'Égypte. C'est
sorti.
Au sens où il fallait qu'on soit acteur.
Oui,
on voit d'ailleurs, il y a un Kliyakar qui est très bon. On voit ça, je crois, dans la Gemara déjà. On a un Kliyakar là-dessus qui insiste là-dessus que quand le pauvre, tu veux aider celui dont l'âne s'est écroulé.
Ah ouais.
Marqué Azov, t'as Azov, Imo. La Torah dit, tu aideras avec lui. Si le gars il reste sur le côté et dit t'as la mitzvah bechavod, moi je te regarde faire puisque t'as la mitzvah. Il dit à ce moment-là t'as plus la mitzvah. Dire que quel que soit l'endroit par où arrive la geoula entre guillemets, il faut quand même que celui qui va être délivré fasse quelque chose. Et donc ce qu'il nous dit c'est que la geoula d'Égypte, elle vient du Olam Ha'Elyon, elle vient du monde céleste. Elle ne vient pas du monde d'en bas.
Non, pourquoi tu dis ça? Parce que comment on dit qu'il y a un rapport entre la Géoula finale et la Géoula de la sortie d'Égypte, est-ce qu'on s'attend à avoir une Géoula d'en haut et, ou une Géoula d'en bas?
Non, on a dit qu'il faut qu'on soit d'abord nous-mêmes. Non, il fallait qu'on construise nous-mêmes et après, il y aura la construction.
Bah, c'est pas ce qu'il dit.
Mais si, c'est ce qu'il dit.
Il y a une différence entre la Géoula d'Égypte et la Géoula finale, la lutte finale. C'est pas exactement la même chose.
C'est très ressemblant.
On est sorti. Non, pas du tout. C'est exactement opposé puisqu'on dit. On est sorti Bechipazon.
Ah oui, d'accord.
Et c'est marqué dans la vie à propos de la Géoula. Kilo Bechipazon Tetseou. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que je n'ai pas préparé sur ce sujet. Je ne suis pas préparé pour répondre. Mais en tout cas, on voit à la base, il y a tout un Inyan là-dessus au début de Tzkata Tzadik de Rabbi Tzadok Kohen Miloublin, où il parle de ce sujet-là, qu'il y a une différence fondamentale donc, entre la Géoula d'Égypte et la Géoula. Du Mashiach. Donc c'est deux niveaux différents.
Mais on a une action à faire, de la même façon. On est obligé de faire quelque chose.
Il y a des avis. Il y en a qui pensent qu'il faut attendre. Il faut attendre que la Géoula arrive toute seule. Là, on n'est pas dans le M. Abani Sebecha.
Ce sera pareil.
Hein?
La Géoula, ça sera la même chose.
Il y a un lien. Il y a forcément un lien, puisque c'est l'archétype. L'Égypte est l'archétype de la Avdout. Les sorties d'Égypte est l'archétype de la Géoula. Mais il y a quand même des choses particulières. Donc finalement, qu'est-ce qu'a voulu nous faire comprendre la Torah en nous manger de la matzah? Elle a voulu nous faire comprendre que la Géoula, ça passe par la simplicité. C'est-à-dire, ne crois pas que ton salut est dans ce monde-ci. Ton salut, il est d'en haut. Il n'est pas « Ezri meim Hashem, ose shamayim va'aretz ». C'est pas le salut de l'homme ne vient pas de ce olam. Dimyonze. Kohen Gadol Meshamesh Bechol Yemei Hashana Bigdei Zahav. On peut donner un exemple. Il dit qu'est-ce qui ressemble à ça? C'est le Kohen Gadol. Toute l'année, il sert avec quoi? Avec des vêtements en or. C'est des vêtements où il y a plein de fils qui sont torsadés entre eux, il y a des couleurs, il y a de la clochette, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de la gloire, il y a de la splendeur. D'accord? Ou bien Makipourim Bigdei Lavan. Le jour de Kippour, tout simple. Des vêtements blancs. Sans aucune fioriture, sans aucune complexité. Et on voit ici que Vezeu Bishvil Shu Kone Madrega Iliona. Si on regarde d'un point de vue matérialiste, on va dire qu'est-ce qui est mieux? Si on met on présente deux photos à quelqu'un dans le Olam et on lui dit voilà, il y a ce Kohen là et ce Kohen là, c'est lequel le plus grand? Et ben il va dire celui-là. Regarde comment il est habillé, il a l'or, il a les couleurs. Il est marbé begadim, il a plein de vêtements, etc. Bon, l'autre, il est habillé comme un pachout. Il dit non, pas du tout.
Ça fait penser
le fait de passer aux habits blancs, il est connu Madriga Eliona, il monte à un niveau plus élevé.
Ça fait penser à Minag Ashkenaz de se mettre en kittel le jour du Seder.
Tout à fait. C'est pour retrouver cette simplicité. Et pour là aussi, là, au côté Solennel, solennel de du Seigneur.
Hein? Ça va dans le même sens.
Ouais.
Pareil, on a une djellaba blanche, c'est tout.
Bah oui, on a une djellaba blanche.
Nous aussi, on a une djellaba blanche.
Hein. Il n'y a pas
qu'à ah, ouais. Ah bah oui.
Hein. C'est le même principe.
Alors, un partout là-bas au centre. Vezeu bishvil shi ukone madriga yona. Donc le fait de lorsque le Kohen Gadol revêt ses vêtements blancs le jour de Kippour, c'est qu'il monte à un niveau supérieur. Sha'arei haya nichnas lifnai velifnim, c'est le jour où il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Yesh lo lesalek atzmo mi madrigat ha'olam hazeh. Or, comment on rentre dans le Kodesh HaKodashim? En se séparant totalement, j'ai pas entendu la blague. Comment on rentre dans le Kodesh HaKodashim? En se séparant totalement du Olam Hazeh, chez Madrigato et Nopshuta. La dimension de notre Olam, c'est pas la simplicité, c'est l'inverse de la simplicité. C'est la complexité, c'est la combinaison, c'est le mélange, etc. Ulkar, Yeshlo, Alechamesh, Bechol, Hashana, Bebigne, Zahav, Bachutz. C'est pourquoi toute l'année, lorsqu'il sert à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, il sert avec des vêtements en or, doré. Aval, Chenichnas, Lifnaï, Velifnim, Yeshlo, Alechamesh, Bebigde, Lavan, Lefima, Alata, Madriga, Chenichnas, Lecham. Donc finalement, quand il passe aux vêtements blancs, il monte au degré supérieur, il se prépare à rentrer dans une dimension Eliona, supérieure, céleste, j'ai envie de dire, qui bigde la vanne em shooting, parce que les vêtements blancs, ils sont tout simples.
Mais, sans contradiction, il y avait le blanc et le doré à Kippour.
Oui, puisqu'il fait l'alternance. Il fait l'alternance entre la avodat pnim et la avodat chutz. Mais à chaque fois qu'il rentre dans l'ifnim, l'ifnaï et l'ifnim, il doit être en blanc.
Il ne peut pas rentrer avec un bidon en or. Il a
non, 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 dans le Mifni, il ne peut pas.
Il a une influence sur lui.
Non, la question d'Hervé, c'est pas ça. La question d'Hervé, c'est est-ce que l'habit fait le moine? Non, c'est ça la question. C'est ça la question, bien sûr que c'est.
Ça fait oui, oui.
Hein? Non, bien sûr que du point de vue de l'Halakha, il y a le principe de un catégor n'a c'est un égor, d'accord? Par rapport au Gelazav, uniquement l'ifnaïv et l'ifnim, pas à l'extérieur, donc ça c'est une raison. Non, la question que pose Hervé, c'est de savoir est-ce que le fait de s'habiller en blanc, ça aide le Kohen Gadol à monter à un niveau? Oui, évidemment, j'ai envie de dire oui. Dire que quand tu te revêts d'une manière particulière, tu endosses quelque part...
La fonction.
Tu endosses une fonction. C'est-à-dire on dit, bon, pourquoi les religieux, ils sont tous habillés pareil, etc.
Tu endosses, mais tu n'épouses pas forcément.
D'accord, mais si tu ni tu n'endosses, ni tu n'épouses...
Non, on peut endosser comme c'est dit, on peut endosser quelque chose, parce que ça le demande. Mais c'est pas comme il dit, là. J'épouse pas forcément, je
c'est pas l'imitation.
Mais au Shabbat, on a raconté l'histoire du chien, le Shabbat. Hein. Je sais pas, mais...
En l'occurrence,
comment le chien reconnaît que c'est Shabbat? Il reconnaît que c'est Shabbat parce que t'es pas habillé pas la même chose que les jours de semaine.
Mais ça n'est qu'un chien.
Évidemment, ça n'est qu'un chien.
Mais
ça veut dire, que même. Donc je vais donc c'est au contraire, c'est un calvachomer. Si déjà sur un animal qui n'est pas doté de conscience, il comprend qu'il y a quelque chose qui a changé le Shabbat parce que t'es pas habillé en jogging. Alors à la chat kama vechama, l'être humain qui réfléchit, dit si je suis bien en costume, c'est que c'est un jour important.
Mais même quand ton costume en semaine, tu dois mettre un nouveau costume en Shabbat différent.
D'accord. Alors on avance. Ne perdons pas le cap, on doit sortir d'Égypte quand même. Velachen siva belelze lechol matzah shi'ilechem oni pashut mikol. C'est pourquoi la Torah nous a ordonné le soir de Pessah de manger de la matzah, qui est la chose la plus simple de toutes les choses. Ki belelze nig'alu b'madrega eliona, parce que ce soir-là, on a été délivré, on a été sauvé par un niveau supérieur, un niveau céleste. Vechol madrega eliona yesh b'pshitut, et toute madrega eliona, tout niveau supérieur, revêt ou contient une dimension de simplicité. Tout à fait, ça fait partie de ça aussi. Vezeu pirusha katuv, c'est ça l'explication du texte de la Torah dans Dvarim Tetzayin. Shivat yamim tochal alav matzot lechemoni. Tu mangeras des matzot pendant 7 jours, pain de misère. Ki bechipazon yatzata mitzrayim, car tu es sorti avec empressement de la terre d'Égypte. Qui marche à Yotzim bechipazon bli emcherzman, moresh yatzu bemadrega ou bemaala eliona. Le fait que on soit sorti rapidement, ça montre que cette sortie était surnaturelle. Pourquoi? on a fait sortir Am, Ikerev Am, on a fait sortir un peuple d'un autre peuple. Ils étaient extrêmement nombreux. Ils devaient se transporter leurs affaires. Ils étaient à pied, visiblement, puisque, bon, ils n'avaient pas de chevaux comme les Égyptiens. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des vieillards, il y avait toutes sortes de personnes. Et pourtant, Kerefaïn, ils sont sortis comme un clin d'œil. Donc le fait que cette sortie se soit passée de cette manière-là implique que c'est une sortie qui est surnaturelle. Donc encore une fois, c'est le Or Gadol dont on parle pour Pessah, c'est cette Itaouta d'Ilela, c'est un éveil d'en haut. Il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour que ça arrive. Vapoel Sheba Misham Naase Blizman. Et donc là, on arrive au Inyan de la Matzah, qui a été expliqué avec merveille par le Maharal. C'est que la Matzah, c'est l'abolition du temps. C'est l'abolition du temps. Donc quelle est la différence entre... Bon, aujourd'hui, ces idées qui étaient révolutionnaires, quand le Maharal les a formulées, sont devenues presque bateaux. On a presque honte de les dire, tellement c'est habituel. Mais de prendre conscience que le pain et la Matzah, c'est la même chose. Les mêmes ingrédients, de la farine de l'eau, de la farine de l'eau. Quelle est la différence entre les deux? C'est le temps. Donc qu'est-ce que vient nous enseigner la Matzah? La Matzah vient nous enseigner l'abolition du temps. Qu'est-ce que signifie l'abolition du temps? Elle signifie qu'on est dans une sortie qui est totalement surnaturelle, puisque dans une sortie naturelle, il y a de la logistique, il faut se préparer. Là, on se prépare au CEDER. Alors, pour sortir d'Égypte, il faut se préparer encore plus. Il faut faire ses affaires, il faut... préparer son GPS, il faut se préparer, d'accord? Et ça met du temps. D'abord, on sort de la ville, ensuite on sort de la région, ensuite on sort du pays. Il va falloir s'arrêter pour faire des pauses, pour manger, pour ceci, pour cela, peut-être qu'on va rencontrer des ennemis. Ça n'existe pas de sortir comme ça en une seconde. Donc, lorsque la Torah nous prescrit de manger des matzot, qui représentent l'abolition du temps, le temps, c'est la dimension de base de la nature. Nous, en tant qu'hommes, on naît, on grandit, on vieillit, on finit à 120 ans par mourir. Donc, on est soumis au temps.
Mais s'il est Ani, il n'a rien à apprendre, hein? Il doit vite partir.
Il n'a pas grand-chose à pas, mais il doit marcher quand même.
Non, mais par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, Ani, il n'a rien.
Non, mais là, on est au niveau de... Là, on ne revient pas à la première partie. Là, on est sur la matzah. Là, on est au niveau de la matzah.
Je ne peux pas sortir Ani, les Israël.
Tu es au niveau de la relativité reste.
Non, moi, je t'en tire riche.
La dimension et le temps.
Voilà.
Ils ont sorti riches, les Israéliens. Hein.
Après, ils sont enrichis. Ouais, ils avaient emprunté déjà, mais après, ils sont enrichis encore plus. L'okemodvarim ativim. Écoute bien, Hervé, il dit c'est pas comme les choses naturelles. Chez Kol Peulatam Behem Sherzman, que tout leur développement se fait avec le temps. Et d'ailleurs, c'est ici le lien avec Matan Torah. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit au nom de Rav Saadia Gaon dans l'introduction des Emunot Vedeot, une idée qui est très importante. La question qui a été posée par Rav Saadia Gaon. Et de savoir pourquoi la Torah nous a prescrit des lois qui sont rationnelles. Savoir que des choses... Si tu me dis qu'une partie des mitzvot sont démontrables du point de vue rationnel, c'était pas la peine de nous les donner. La Torah aurait dû nous donner que les mitzvot irrationnels, entre guillemets, qui sont liés au lien avec Kadosh Baruch Hu, au spirituel, aux fêtes, à tous les décrets comme la kashrout, le shatnez, etc. Et tout le reste... Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas ceci, ne pas cela. C'est des choses rationnelles, on aurait pu les découvrir nous-mêmes. Quelle est la réponse de Rav Saadia Gaon, si vous vous souvenez bien? Rav Saadia Gaon, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit oui, ils auraient pu trouver tout ça, mais il faut du temps.
Il n'y a pas le temps.
C'est comme la recherche scientifique, ça met du temps. Ça met du temps, on n'arrive pas de... Voilà, c'est un enchaînement de recherches. Chacun va passer à son élève, l'élève va raffiner ce que le maître a appris, il va éventuellement contredire certaines choses pour pouvoir reconstruire, etc. Et donc, Rav Saadia Gaon nous dit il aurait fallu des siècles pour y arriver, à sortir les 613 mitzvot de la Torah, enfin, à la partie rationnelle des 613 mitzvot. Donc, il dit quel était le chesed de Dieu? Ploups. Il nous a donné directement toute la partie rationnelle pour qu'on soit, on nous a fait gagner du temps. Donc, ici, c'est la même chose. Si on voit le lien entre les deux, il dit de la même manière que dans, on a dit ça par rapport à la Torah, c'est pareil par rapport à la Goulat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu aurait pu dire allez, ils vont sortir tranquillement. Ils vont prendre leur temps et dans deux ans, ils seront arrivés en Eretz Israël. Bon, finalement, ils ont mis 40 ans, c'est pas beaucoup mieux, mais c'était de leur faute. C'était pas de sa faute à lui. Avalkan aita geulatam chez l'obeteva. Ici, on parle d'une geoula qui est contre nature, qui est irrationnelle, qui ne suit pas les règles de la nature.
Pourquoi on est passé à la teva?
On l'a dit déjà, on a dit que c'était Elion, Madrigal Yona, on a dit. Ulkar, Yaya, Bechipazon, Blizman, c'est pourquoi la sortie d'Égypte s'est passée avec rapidité, 100 ans, enfin 100, S-A-N-S, plus loin, T-E-M-P-S. Ulkar, Raoui, Sheyochlu, Lechem, Oni, c'est pourquoi il convient de manger du pain, entre guillemets, de misère. Ou Lechem, Apachut, Mibli, Arkava, qui est un pain qui est, ici, il ne parle pas du temps, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il le dit ailleurs, un pain qui est Pachut. C'est-à-dire un pain dans lequel il n'y a aucun élément, aucun ingrédient superflu. Il y a le strict minimum nécessaire. Et on a été, l'ingrédient qui a été encore au strict minimum, c'est l'ingrédient temps, qui lui aussi a été éliminé et qui a été limité à maximum 18 minutes, son expression la plus simple. Et grâce à tout cela, donc, on prend conscience que la sortie d'Égypte est une sortie qui est surnaturelle. Et donc voilà, on est déjà arrivé à la fin du shiur, on a à peine commencé à l'Armania, donc on comprend pourquoi on peut passer toute la nuit de Pessah et encore beaucoup plus longtemps. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on essaiera de continuer sur la même sur la même lancée. Et Blin Eder, il y aura une veillée, si Dieu veut, à Chevi, chez le Pessah. Baruch Adonai Elohim, Amen ve Amen.